say anything.
Oh. Eh bien, ceci, c'est une petite mise en route ce soir, mais une mise en route qui, j'espère, ne gênera pas trop ceux qui arriveront demain. Je crois qu'il y a quelques personnes qui arrivent demain, mais quand même, qui paraît nécessaire pour bien saisir tout ce que je me propose de vous présenter pendant ce week-end. Et je mettrai tous les jours à peu près au tableau une référence à la Bible, aux évangiles. Si vous n'avez pas vous-même, vous ne disposez pas vous-même là à la retraite d'une, vous en trouverez au moins quelques-unes que vous pourrez consulter là où se trouve, vous voyez, au pied de l'escalier de bois qui monte aux étages ici. Hein. Vous trouverez là aussi quelques indications que, chemin faisant, je vous indiquerai dans tel ou tel de ces ouvrages qui sont là. Alors, donc, il s'agit des étapes de la vie spirituelle selon Thérèse d'Avila. C'est ce qui va nous occuper pendant ces deux jours. Et Sainte Thérèse d'Avila, je ne sais pas si vous la connaissez beaucoup, vous avez à votre disposition d'ailleurs, là aussi, tel ou tel récit que vous pourrez au moins feuilleter pour avoir les indications concernant le détail, enfin quelques détails, les événements de sa vie. Et elle est proclamée docteur de l'Église. Il n'y a pas beaucoup de docteurs de l'Église, il n'y a qu'une femme, il n'y a que trois femmes. Et Sainte Thérèse, avec Catherine de Sienne, a été la première proclamée. Et elle n'a rien d'un professeur, vous voyez. Mais ce qu'elle a pu écrire, et c'est abondant, c'est uniquement ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, une expérience très concrète d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tout du long de sa vie. Je serais tenté de dire une aventure d'amour, d'un amour qui n'a peut-être rien de charnel, mais qui est un amour très profond et qui a pris toute la personne, y compris d'ailleurs son affectivité. Et cette aventure a cette particularité qu'on ne trouve pas tellement dans l'histoire des saints canonisés, de nous faire vivre à peu près tout ce que le Seigneur fait vivre à une personne qui se laisse faire, y compris quand le Seigneur décide d'en faire une mystique. Nous reviendrons sur ce mot mystique qui me paraît important dans le cas de Sainte Thérèse. Le fait est qu'il s'est passé dans sa vie des choses ordinaires que nous retrouverons dans les étapes de sa vie et aussi des choses extraordinaires, des extases, des visions intérieures, des compréhensions originales de la parole de Dieu et aussi une mission assez étonnante pour une femme, comme tout le monde, j'allais dire, et cependant chargée d'une mission de la fondation de 17 couvents. Ce qui n'est pas mal, ça, me semble-t-il. 17 pour lesquels elle a mis la main à la pâte pour chacun d'entre eux. Et tout ça, ça se passe dans un contexte précis qui a marqué aussi sa personnalité. C'est l'Espagne du XVIe siècle. L'Espagne qui, à cette époque, détenait le leadership mondial, n'est-ce pas ? C'était un peu les États-Unis d'à présent, au point de vue politique. Le leadership en Europe, mais en même temps aussi qui venait de faire la conquête de la plus grande partie du continent américain, et qui avait entrepris de porter l'évangile à ce continent. D'autre part, Sainte Thérèse a vécu aussi au temps des guerres de religion. Les guerres de religion qui ont ensanglanté notre pays, pas en France, ont déterminé en Espagne un projet catholique sous l'empereur et son fils Philippe II, Charles Quint et son fils Philippe II, une attitude défensive et un projet politique de faire de l'Espagne un pays entièrement catholique, d'avoir expulsé les juifs par exemple qui étaient là, ça, et les mahométans, ou les obliger à se convertir plus ou moins sincèrement probablement tant qu'ils voulaient rester. Et Thérèse a été mêlée à ces événements comme une simple carmélite. Mais vous savez, les carmélites, nous autres pères carmes, nous savons, elles savent tout ce qui se passe, beaucoup plus souvent, même ce qui se passe d'un couvent de carmes à un autre, beaucoup mieux que les carmes eux-mêmes, n'est-ce pas? On ne sait pas comment le téléphone arabe fonctionne entre elles, mais il fonctionne. Et c'était vrai déjà du temps de Sainte Thérèse. Et donc, ce sont même ces événements qui l'ont porté à écrire en grande partie. Elle a écrit beaucoup. 4 livres principaux, je ne mentionnerai ici que 2 qui sont plus importants et qui vont nous concerner, surtout d'ailleurs l'un d'entre eux. Thérèse a été plus ou moins menacée, ou même aux prises, avec l'Inquisition. L'Inquisition espagnole, justement, fondée par les rois d'Espagne pour faire de l'Espagne un pays entièrement catholique. Et quand il est arrivé à Sainte Thérèse des extases ou des choses de ce genre-là, évidemment, ça a défrayé les soupçons de l'Inquisition, qui a confisqué tout ce qu'elle avait pu écrire jusque-là, et en particulier le récit de sa vie. Ce récit avait été écrit parce que, justement, elle craignait d'être suspectée et peut-être même accusée par l'Inquisition. Et alors, un père, un religieux qu'elle avait constaté, lui avait dit, écoutez, le mieux c'est que vous écriviez tout ce qui vous est arrivé, et puis vous le déférez à l'Inquisition. L'Inquisition l'a pris, c'était le récit de sa vie et des événements qu'elle avait connus, extraordinaires d'ailleurs à ce moment-là, déjà. Et donc, elle a été assez vite rassurée parce qu'on lui a dit que le grand inquisiteur avait fait son livre de chevet. Enfin, donc, elle ne risquait pas grand-chose. Mais elle n'a jamais revu ce texte. Les textes et toutes les copies qu'il pouvait y en avoir avaient été confisquées par l'Inquisition. Si bien que 15 ans après, parlant avec un de ses frères carmes, c'était un jésuite. Donc je m'excuse, c'était pas un cas. Eh bien, celui-ci, elle disait, oh quand même, j'avais trouvé vraiment la manière de décrire ça qui m'était arrivé là. Et l'autre lui dit, eh ben, vous savez, vous ne retrouvez plus ce texte-là. De fait, il n'est sorti que de l'Inquisition qu'après sa mort. Mais on n'a qu'une chose à faire, c'est de le réécrire. Mais au lieu de le réécrire comme un témoignage unique de votre vie, écrivez-le comme le résultat de votre expérience et qui pourra servir à d'autres éventuellement. Et c'est le second livre qui reprend toute sa vie, et c'est celui qui nous intéressera le plus, qu'elle a appelé le château intérieur, ou château de l'âme, ou en espagnol, las moradas, le livre des demeures. Et nous allons en parler dès demain de cela. Hein. Et alors ce livre-là, eh bien, décrit tout ce qu'elle a vécu. Et comme il était écrit 15 ans après le premier qu'elle avait écrit, elle avait une expérience encore beaucoup plus riche, hein, et qu'elle dominait très bien. Et donc, c'est cette expérience qui va nous donner justement ça, les étapes de la vie spirituelle selon Thérèse d'Avila, c'est-à-dire le thème qui est proposé pour ce week-end, ça, que nous aborderons dès demain matin. Hein. C'est une expérience personnelle, sans doute, oui. Et cependant, vous voyez, comme le cas de beaucoup de saints, tout ce qu'elle a vécu est suscité par le Seigneur pour instruire le peuple fidèle auquel nous appartenons, la plupart d'entre nous, et qui n'auront probablement pas les expériences de Sainte Thérèse, n'est-ce pas ? Mais même, et ça je me propose d'en parler avec vous, même ce qu'il y a d'extraordinaire dans sa vie contient des choses qui sont valables pour nous. Et nous les repérerons, n'est-ce pas, petit à petit. Et donc, vous voyez, hein, il ne s'agit pas, dans ce qu'elle a écrit, à proprement parler, les étapes de la vie spirituelle en général, ça, c'est les étapes qu'elle a vécues elle-même, mais ce que j'appellerais plutôt les jalons spirituels que nous pouvons retrouver pour notre propre vie de relation avec le Seigneur. Et je vais terminer par là pour ce soir, ça. Mais simplement, il s'agit d'une relation avec une personne. Une personne, celle du Christ. Et ça vaut la peine de le noter, parce que je crois que si on nous demandait à chacun d'entre nous ici, le Dieu que vous appelez dans votre prière, c'est qui ? Il y aurait peut-être autant de réponses que la personne. Vous me direz, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Et sans doute pour la plupart d'entre nous, ce Dieu-là, c'est celui qui s'est fait homme. Et c'est très bien comme ça, n'est-ce pas ? Mais il arrive aussi, et il est bon d'y faire attention, que dans notre prière, c'est comme le fait l'Église dans sa liturgie, elle s'adresse au Père. Et le Père, c'est pas la même personne que le Fils, même si c'est le même Dieu. Ce sera peut-être l'occasion d'élaguer un tout petit peu ce mystère. Mais pour d'autres encore, à certains moments, ils reconnaîtront dans leur vie l'Esprit Saint. Pour une carmélite dont vous connaissez le nom probablement, Élisabeth de la Trinité, le Dieu qu'elle invoque, c'est le Dieu unique. Et ô mes trois, mon tout, ma demeure. Hein. Et je pense à une carmélite qui me disait ceci. Ah ben moi j'imagine Dieu, vous voyez, comme une ronde. Trois personnes qui tournent en rond au son d'une musique ou d'une danse. Et trois femmes. Et autour, il y a trois hommes qui attendent comme ça. Et à un moment donné, au son de la musique, ça amène chacune des femmes à venir faire un petit salut à l'homme qu'elle emprunte comme son cavalier et qu'elle entraîne dans la ronde. Eh bien, nous sommes un peu, je pense, comme ces personnes qui sont emportées, je vais dire, n'est-ce pas, par la ronde qui était le Seigneur, le Dieu en trois personnes. Ce n'est qu'une image, bien sûr. On n'a pas compris pour autant le mystère de la Trinité, ça. Mais ça permet quelquefois de se raccrocher à cela. Alors, voyez-vous, le problème, c'est de plus en plus de comprendre que Dieu, sous quelque forme encore que nous l'invoquions, eh bien, Dieu, c'est quelqu'un qui est entré et qui doit entrer encore davantage dans notre vie. Quand vous vous êtes mariés, la plupart d'entre vous, il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie, hein, et qui compte, n'est-ce pas ? Quand un enfant est venu à votre foyer, ça change probablement aussi, n'est-ce pas, ce qu'on vit. Hein. mais c'est quelqu'un qui entre dans votre vie. Il y a des rencontres aussi de personnes qui entreront dans votre vie. Eh bien, demandons-nous si le Seigneur aussi est entré dans notre vie. Je vais m'arrêter sur là, là-dessus pour ce soir. Je vous ai mis là, si ça peut vous aider à faire un temps de prière personnel, la référence, deux références. Celle du bas, c'est Saint Matthieu, qui était le douanier de service à son bureau, et à qui le Seigneur a dit, viens et suis-moi. Alors il a lâché tout là. Et il y a trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui parlent de cette vocation. C'est pourquoi j'ai mis les passages parallèles. Et puis il y a Jean, qui rapporte alors assez longuement la première rencontre entre deux des futurs apôtres avec le Seigneur, deux qui étaient des disciples de Jean-Baptiste, André et Jean, l'apôtre, et eux aussi, bien, ils ont été embarqués à la suite du Seigneur. Si ça peut vous aider à prier, voilà les références. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. Nous nous retrouverons demain matin. Voilà.